Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. C'est un texte important que publie ce mardi la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican, une lettre intitulée Samaritus Bonus, qui rappelle la ferme opposition de l'Église à toute forme d'euthanasie et de suicide assisté et qui invite à toujours prendre soin jusqu'au bout des personnes en fin de vie. Un texte jugé nécessaire au Vatican devant de nombreux cas de législation qui évoluent vers l'euthanasie. Le compte-rendu de ce document avec Olivier Bonnel.
L'objectif de cette lettre est de fournir des indications concrètes pour actualiser le message du bon samaritain. Même lorsque la guérison est impossible ou peu probable, l'accompagnement médical, psychologique et spirituel est un devoir incontournable, peut-on lire dans ce document. Guérir si possible, toujours prendre soin. Samaritanus Bonus rappelle ces mots de Jean-Paul II pour expliquer en quoi cet accompagnement jusqu'au bout est essentiel. Prendre soin de la personne malade, être avec elle, l'accompagner en l'écoutant, en lui faisant sentir qu'elle est aimée et désirée, voilà ce qui peut éviter la solitude, la peur, de la souffrance et de la mort, autant d'éléments qui sont aujourd'hui parmi les principales causes des demandes d'euthanasie. Supprimer un malade qui demande l'euthanasie ne signifie pas reconnaître son autonomie et la valoriser, précise encore la Congrégation pour la doctrine de la foi, et bien au contraire cela signifie ignorer la valeur de sa liberté fortement conditionnée par la maladie et la douleur et la valeur de sa vie. Cette lettre revient aussi sur des expressions en vogue quand on parle de fin de vie, soulignant par exemple l'équivoque du concept de mort digne ou une compréhension erronée de la compassion. La véritable compassion humaine, au contraire, ne consiste pas à provoquer la mort, mais à accueillir le malade, à le soutenir, souligne le document. Cette lettre rappelle enfin la valeur de l'objection de conscience pour les médecins. Elle demande aussi à certaines églises locales d'adopter des positions claires et unifiées sur ces questions sensibles. Il est important, conclut le texte, que les médecins et tout membre du personnel de santé soient formés à l'accompagnement chrétien des mourants, comme l'ont montré les récents événements dramatiques liés à l'épidémie de Covid-19.
Olivier Bonnel, vous retrouverez plus ample précision sur notre site internet vaticannews.va. Ouverture cet après-midi de la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Pendant une semaine, les vidéos de chefs d'État des 193 pays membres de l'ONU se succéderont dans le Palais de Verre. L'Assemblée cette année est virtuelle pour cause de pandémie. Premier à la tribune, le secrétaire général de l'organisation onusienne, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu mondial. Il faut éteindre, dit-il, les conflits chauds, éviter une nouvelle guerre froide pour faire face à la pandémie de Covid-19. Et quelques minutes après lui, le ton du président américain était d'une toute autre nature. Donald Trump a appelé les Nations Unies à tenir la Chine pour responsable de ses actes. Selon lui, Pékin était au courant de la transmission humaine du virus et aurait consciemment cherché à infecter le monde. La Covid a tué près de 200 000 personnes aux États-Unis. Autre dossier brûlant qui pourrait s'imposer à New York, le nucléaire iranien après les sanctions prises unilatéralement hier par l'administration Trump contre 27 personnes ou entités accusées d'aider Téhéran à contourner l'embargo de l'ONU sur les armes. Eh bien, la Russie promet ce soir tout au contraire de développer sa coopération militaire avec l'Iran. La Russie qui vient de faire sortir en mer le brise-glace Arctica, fleuron atomique de sa flotte, 2 semaines de navigation avant sa mise effective en service. Au Liban, une puissante explosion a secoué un bâtiment du Hezbollah aux abords d'un village du sud du pays. Le secteur est bouclé. Il pourrait s'agir d'un malencontreux accident, selon une source proche du mouvement armé chiite libanais, interrogé par l'AFP. Les Palestiniens ont quitté aujourd'hui la présidence tournante de la Ligue arabe, 2 semaines seulement après en avoir pris la charge, 2 semaines aussi après leur échec à faire adopter une résolution condamnant la normalisation des relations entre Israël et 2 pays arabes du Golfe. La Turquie et la Grèce seraient prêtes à commencer des pourparlers exploratoires au sujet de la Méditerranée orientale. Méditerranée orientale où les 2 pays se disputent des zones potentiellement riches en gaz naturel. L'annonce a été faite tout à l'heure à l'issue d'une vidéoconférence entre le président turc, la chancelière allemande, le président du Conseil européen. 48 heures surtout avant un sommet européen consacré en priorité au dossier gréco-turc avec notamment l'étude de sanctions européennes à l'égard d'Ankara. À Istanbul,
Depuis plusieurs semaines, la Turquie se dit prête à négocier avec la Grèce au sujet de leurs différences sur les frontières maritimes dans l'est de la Méditerranée. Mais elle accuse la partie grecque de vouloir des pourparlers à minima, sur un très petit nombre de sujets, là où Ankara veut des négociations globales sur des sujets aussi variés que la délimitation du plateau continental, des eaux territoriales, des zones de contrôle aérien, ou encore sur la militarisation des îles grecques en mer Égée. Bref, les deux voisins ne s'entendent pas sur le cadre des négociations. Un accord de principe aurait été trouvé pour lancer des pourparlers exploratoires. C'est un premier pas, mais la prudence s'impose. D'abord parce qu'Ankara et Athènes ont déjà essayé, sans succès, de se mettre d'accord dans ce dossier pendant plus de 20 ans, avant que les pourparlers ne soient interrompus en 2016. Ensuite parce que la Turquie prévient qu'elle n'hésitera pas à déployer de nouveaux navires dans les zones contestées si la Grèce refuse de faire un geste de son côté. Enfin, Ankara attend de connaître le résultat du Conseil européen de ces jeudis et vendredis, où les États de l'Union discuteront d'éventuelles sanctions contre la Turquie. Si elles se confirment, nul doute que le président Erdogan y verrait un prétexte pour se montrer encore plus intransigeant. À Istanbul, Anne Loire pour Radio Vatican.
Ce soir, le président turc parlera avec son homologue français. Fin août, le pape François s'était inquiété des tensions en Méditerranée orientale. Il avait appelé à un dialogue constructif et au respect de la légalité internationale afin de résoudre les conflits qui menacent la paix des peuples de cette région. On fait du tort au Brésil. Alors qu'à la tribune des Nations Unies, le président brésilien Jair Bolsonaro dénonce une brutale campagne de désinformation sur l'Amazonie et le Pantanal, nous vous proposons de prendre la direction justement de ce territoire, la plus grande zone humide de la planète, aux confins entre le Brésil, la Bolivie, le Paraguay. Une région peu connue, isolée, habitée par des peuplades indigènes, le Pantanal est un paradis pour de nombreuses espèces comme les jaguars ou encore les perroquets bleus, menacés dans le reste du continent sud-américain. Mais cette année, ce paradis de la faune et de la flore est menacé depuis plusieurs mois. Des incendies dévorent tout sur leur passage. Plus de 23 000 km² sont déjà partis en fumée. Comment expliquer cette catastrophe écologique? Élément de réponse avec Pierre Girard, hydrologue, professeur à l'université de Mato Grosso au Brésil.
La saison humide, c'est généralement de fin octobre jusqu'à en avril. Alors là, il pleut et puis on a une inondation. C'est un territoire très particulier. Alors là, à ce moment-là, c'est très humide. Et puis après ça, les eaux retournent vers les canaux des rivières et puis ça commence à sécher. Et déjà au mois de mai, c'est déjà très sec. Sauf que l'année passée, il y a eu très peu de pluie. Il y a eu une petite inondation. En 2019-2020, on a eu très peu de pluie et on a maintenant une très forte sécheresse avec des hautes températures, alors ça a beaucoup séché. Et puis, quand les feux ont commencé, ça a été très facile de se propager.
Comment l'expliquer, cette sécheresse? C'est un événement météorologique ponctuel qui arrive ou parlerait-on d'une conséquence du réchauffement climatique?
On peut penser que c'est une conséquence du changement climatique parce que de plus en plus, si on regarde au niveau mondial, on a de plus en plus de sécheresse dans tout le globe. C'est pas juste au Pantanal. De plus en plus d'incendies aussi. L'incendie du Pantanal, ça s'inscrit dans un contexte où est-ce que le changement climatique, ça nous donne des sécheresses plus intenses et surtout plus prolongées. On a maintenant un moment climatique très favorable au feu. Il y a des conditions qui sont actuelles, mais il y a aussi tout ce grand changement qui est en train de se produire, le grand changement climatique.
Selon certains chercheurs, c'est la déforestation en Amazonie, un peu plus au nord du Pantanal, qui est une des causes de cette sécheresse. Alors, comment expliquer ce lien?
La forêt amazonienne, on peut la percevoir comme une sorte de grande éponge qui capture l'humidité qui vient de l'océan Atlantique et qui la recircule dans l'atmosphère. Et les courants atmosphériques prennent cette humidité et l'amènent vers le Pantanal et aussi le sud-est du Brésil. La forêt amazonienne, c'est comme une sorte de grand distributeur d'humidité dans tout la zone centre-ouest et sud-est du Brésil. Et comme la forêt diminue annuellement, on pense qu'il y a de moins en moins d'humidité qui circule vers le sud-est, vers le centre-ouest où le Pantanal se trouve. Il y a de moins en moins d'humidité qui circule. De plus en plus, on a des saisons des pluies moins abondantes et surtout plus courtes à cause de ce phénomène-là. Si on pense un jour qu'il n'y aura plus d'Amazonie, il y a de fortes chances que dans le Pantanal et dans le sud-est, il y a vraiment très peu de pluie.
Interrogé par Marine Henriot, Pierre Girard, hydrologue professeur à l'université de Mato Grosso au Brésil, était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain matin à 8h30 pour un nouveau tour du monde de l'actualité avec Manuela Affigi. Excellente soirée à tous.